Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, la fête de Noël, c'est-à-dire la venue de Jésus-Christ dans ce monde, est à l'origine de la civilisation chrétienne. Cette civilisation se définit par toutes les vertus dont je vous entretiens, parce qu'il n'y a pas d'autre manière de définir la vie chrétienne et même la vie tout court. Après avoir vu et étudié les vertus annexes à la justice qui nous obligent à répondre à un bienfait reçu et nous rappelle notre devoir par rapport aux autres, il reste trois vertus qui ont ceci en commun, qu'elles sont moins de la justice, c'est-à-dire qu'elles sont moins dues, elles sont, nous dit saint Thomas, quelque chose que l'homme se doit à lui-même dans la civilisation chrétienne dans laquelle il vit. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. La vertu de gratitude, vous avez commencé par recevoir un bienfait, vous êtes tenu de rendre un bienfait. Et là, nous avons trois vertus qui sont un peu différentes. La vérité, l'amitié ou affabilité, et la libéralité par rapport au bien matériel. On pourrait s'attendre à ce que la vertu de libéralité soit étudiée par saint Thomas en même temps que la tempérance, puisqu'il s'agit finalement de ne pas s'attacher aux choses d'ici-bas. Et il dit non, parce que la vertu de tempérance concerne les plaisirs sensibles, et la libéralité est beaucoup plus dans la raison. On réfléchit à l'usage que l'on doit faire de son argent. Cet argent est à nous. Aucun pauvre n'a le droit de nous dire « ceci est à moi ». Et pourtant, le chrétien use de son argent pour le bien de la civilisation chrétienne, il n'en use pas égoïstement, bien que cet argent soit à lui. Et un vrai chrétien aurait honte, même si personne ne peut lui réclamer quelque chose. Parce que vous voyez, dans la vertu de gratitude, celui qui vous a fait un bienfait peut réclamer votre merci et votre reconnaissance. Bon, il ne peut pas le réclamer devant un juge comme on réclame une somme d'argent qui est due. Enfin, c'est reconnu en justice, hein. C'est dans le code civil. L'ingratitude est un motif d'annulation des dons en argent. Alors que personne ne peut vous réclamer votre argent sous prétexte que vous devriez l'utiliser pour la civilisation chrétienne. Il en va de même de l'amitié et de l'affabilité. Être aimable avec les autres. Manifester, alors il faut que je vous donne une précision, l'amitié au sens strict est une sur-vertu, elle est au-dessus de toutes les vertus, elle est l'amour du bien partagé avec tous ceux qui aiment le bien. C'est un amour du bien qui est tellement élevé que nous nous rencontrons avec tous ceux qui ont le même amour. Et avec qui nous créons donc une société dans le bien. Si saint Thomas et Aristote parlent ici d'amabilité, c'est au sens que l'affabilité découle un petit peu de cette amitié chrétienne qui vient de la charité, et puis qu'elle y ressemble de l'extérieur. Également parce qu'elle a quelque chose de très gratuit. Pourtant, il en parle dans la vertu de justice, Pour cette même raison, personne ne peut réclamer que vous soyez aimable, et pourtant vous devez être aimable, parce que, non pas d'un point de vue utilitaire, mais vous vous devez à vous-même d'être aimable avec tout le monde. Dans la mesure de l'amabilité qui correspond à la réalité, à leur place, vous n'êtes évidemment pas aimable avec un supérieur comme avec un inférieur. C'est une certitude. Mais enfin, avec des hommes qui sont des hommes, on a une amitié, une affabilité, parce que nous avons en commun la nature humaine d'avoir le même Père des cieux, d'avoir le même Sauveur, notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'il soit roi ou manant, ils sont tous les deux fils de l'Église. Et ça, nous sommes capables de le comprendre. Et il en va de même pour la vérité. Parce que le vice opposé à la vérité, c'est le mensonge. Et le mensonge, c'est de parler contre sa pensée. Donc le mensonge se définit par rapport à nous. C'est amusant, vous voyez. Ça ne se définit pas par rapport à autrui. Le fait de tromper quelqu'un est une conséquence. Le vice n'est pas dans le fait de tromper quelqu'un. Le vice est de parler contre sa pensée. Pourquoi ? Parce qu'un homme normal, vertueux, à une pensée droite, et cette pensée, il l'exprime. S'il parle contre sa pensée, soit sa pensée est droite et il trompe les autres, il n'est pas un honnête homme, il n'est pas un chrétien, il n'a pas un comportement de chrétien, ou bien alors sa pensée est fausse, et alors à ce moment-là, c'est encore pire. La vertu de vérité nous oblige non seulement à parler vrai, mais à agir vrai. C'est-à-dire à ne pas nous présenter pour ce que nous ne sommes pas. Le fait de se présenter pour ce que nous ne sommes pas, moi je ne sais pas, me présenter comme officier de police alors que je ne le suis pas, ce n'est pas tellement les conséquences sociales, ce n'est pas seulement les conséquences sociales qui rendent la chose répréhensible, c'est que c'est indigne d'un homme de se mettre à part de la société, de profiter de la société, en jouant les agents de police alors qu'il ne l'est pas, au lieu de servir la société. Donc il s'agit de vertus très, très fines, pour lesquelles les règles sont beaucoup moins précises, ne sont pas définies d'avance. Les autres vertus que nous avons étudiées avant, les règles sont beaucoup plus faciles à établir d'avance. Là, les règles sont établies en fonction de notre conscience, de notre qualité, de notre conscience de la civilisation chrétienne apportée par Dieu, de notre conscience, de l'aide que nous devons apporter à la construction de cette civilisation chrétienne. Maintenant que j'ai posé les bases, deuxième partie de ce sermon, je voudrais vous mettre en garde justement sur des mauvaises notions de ces vertus. Parce que c'est très surprenant, j'ai constaté que les libéraux parlaient volontiers de ces vertus de civilisation chrétienne. Ce qui ne veut pas dire qu'ils la pratiquent. Parce que, justement, leur critère est faussé. Un libéral est un égoïste, et un égoïste a un critère faussé lorsqu'il exerce la vertu, surtout quand il exerce une vertu dont il doit lui-même déterminer la mesure. Et il y a un adage en philosophie chrétienne que tout ce qui est reçu selon le mode de celui qui reçoit, et par conséquent, tout ce qui est exercé selon le mode de celui qui l'exerce. Je vous donne un exemple. Vous avez trois personnes ou quatre personnes qui se promènent en forêt. Le premier est un botaniste. Que fait-il lorsqu'il se promène en forêt? Il fait de la botanique. Il admire les arbres. Indépendamment de savoir si c'est bon ou mauvais, je dis qu'il fait de la botanique. Un botaniste, quand il va en forêt, remarque les arbres, il remarque les fleurs, il remarque la végétation. Bien. Vous avez un écologiste qui se promène en forêt. Que fait-il? Il rend le culte à la déesse nature. Vous avez un père de famille qui se promène en forêt avec ses enfants qui font de la bicyclette. Que fait-il? Il fait une œuvre d'éducation. Vous avez un capucin qui se promène en forêt et il rend gloire à Dieu. On est, voyez, la différence de nature, de tempérament, pas de tempérament, c'est de nature, de conception des choses, va avoir une très forte influence. Or, par le péché originel, nous sommes profondément blessés. Et la blessure du péché originel est la conséquence du péché. Le péché, c'est un retour sur nous-mêmes en nous détournant de Dieu. La vertu, c'est nous tourner vers nous-mêmes vers Dieu. Le péché, c'est nous détourner de Dieu pour nous retourner vers nous-mêmes. Et donc, la blessure du péché originel et de tous nos péchés personnels subséquents, d'ailleurs, c'est une tendance naturelle à un retour sur soi. Nous sommes obligés de lutter contre ce retour sur nous-mêmes qui nous est naturel dans notre nature blessée. Pas naturel dans la nature telle que Dieu l'a faite, mais naturel dans notre nature blessée. Et par conséquent, ces vertus de civilisation chrétienne, lorsque la civilisation est profondément chrétienne, vont être des vertus vraiment mises au service de la civilisation. Et les mêmes vertus exercées par des libéraux vont être des vertus de libéraux pour favoriser le libéralisme. Parce que le libéralisme a besoin de se donner une image. Le libéral est un hypocrite qui veut jouir du monde d'ici-bas sans se séparer du monde de Dieu. Donc il est obligé de se donner une image de droite, une image de conservateur, une image de tradi, une image de tout ce que vous voulez. Et ces belles vertus de vérité, parce qu'il la connaît, la vérité. Ces belles vertus d'amitié, d'affabilité, de libéralité, parce qu'il a les moyens d'être libéral, le libéral, justement. C'est pour ça qu'il est libéral, parce qu'il veut garder les moyens. Et il va mettre ces vertus au service de son libéralisme pour créer un faux semblant qui va lui permettre de passer pour ce qu'il n'est pas, même à ses propres yeux. Parce que le libéral est tellement blessé qu'il a besoin de passer pour ce qu'il n'est pas à ses propres yeux, parce qu'il n'oserait pas se regarder en face dans un miroir. Il a trop de qualités pour apprécier la bassesse de son comportement. Pourquoi j'insiste sur le libéralisme? Parce que c'est le vice qui vous fait courir le plus de risques, mes bien chers frères, à vous qui m'écoutez. Si je parlais à des musulmans, je ne parlerais pas du libéralisme, parce que le musulman est entier. Alors le libéralisme, il déteste. Il déteste ça. Il déteste les catholiques qui ne se comportent pas en catholiques. Mais je ne parle pas à des musulmans, même s'il y en a qui m'écoutent. Et si vous m'écoutez, chers amis musulmans, eh bien, soyez assurés que je prie pour vous, parce que les paroles que je vous profère viennent de Dieu. Et si vous les entendez, c'est Dieu qui vous parle par ma bouche. Mais je m'adresse principalement à des catholiques qui ont été désemparés par le monde moderne, désemparés par les prêtres auxquels ils ont fait confiance, désemparés par l'Église moderne qu'ils ont cru être vraiment la perfection de l'Église catholique. Et le grand moyen que les modernes ont utilisé envers les bons cathos pour les faire, les bons catholiques, pour les faire tomber, c'est le libéralisme. Et c'est pourquoi je vous mets en garde contre le libéralisme. Je pourrais également vous parler de l'honnête homme du XVIIe. Les vertus de l'honnête homme, si vous les avez chez Saint François de Sales, ces vertus sont admirables. Saint François de Sales est admirable. C'est absolument certain, un saint doux, un saint attirant, un saint qui a l'art de vous corriger de vos défauts. Seulement, on sent bien que ces vertus sont exercées dans un monde qui, lui, ne les comprend plus de la même manière. Un saint Vincent de Paul est admirable. Mais il me semble qu'il y a une différence, une distance entre les grands du royaume qui se penchent vers la misère, Saint Vincent de Paul qui se penche vers la misère. On a l'impression que les grands du royaume, oh, ils exercent la vertu, je ne vais absolument pas vous dire le contraire. Je ne vais pas vous dire le contraire. Malgré tout, ils se rattrapent, ils se rachètent, ils sortent d'un milieu qui n'est pas normal. Le milieu de la cour à Versailles est un milieu qui n'est pas normal, même s'il y a eu d'excellents chrétiens qui ont pratiqué les vertus chrétiennes. Et ils ont été obligés de sortir de ce milieu pour bien pratiquer les vertus chrétiennes. Et donc l'idéal d'honnête homme, faisons bien attention, il y a un honnête homme orgueilleux qui est fier d'un autre honnête homme qui répand l'argent à profusion parce que cela lui donne une image d'honnête homme qui est aimable, affable parce qu'il en a la capacité, parce que il a les moyens de ne pas avoir d'ennemis, alors autant être ami avec tout le monde, hein. Il est suffisamment du monde pour être à l'aise partout. La vérité il la connaît, alors il vous la prêche du haut de sa suffisance. Mais en transmet-il l'amour? Et saint Thomas d'Aquin nous fait remarquer, vous avez des... Ah oui, parce qu'il faut que je vous dise un mot sur libéralité et libéral. À l'origine, être libéral est une qualité, c'est la qualité de celui qui fait des libéralités. Et c'est justement à cause de cette déformation de gens qui ont utilisé cette vertu de libéralité pour se faire bien voir... sans être véritablement vertueux, qu'ils se sont donné la définition de libéral, et que cette libéralité, ils l'ont associée à la liberté. On est libre, libéral, on a fait tout un micmac, et puis ces messieurs se sont définis des libéraux. Les libéraux, c'est devenu un vice. Et... le libéral, d'ailleurs, ne donne pas nécessairement beaucoup d'argent, mais il donne de l'argent qu'il fait bien voir. C'est pas pareil. Alors, quel est le remède? Parce que faisons bien attention, hein. Nous-mêmes, nous sommes soumis aux mêmes tentations. Dans ce monde terrible dans lequel nous sommes, il est facile de mal pratiquer ces vertus dont je vous ai dit qu'elles étaient fort délicates. Le remède nous est apporté par notre Seigneur Jésus-Christ, et c'est l'amour de la croix. Alors je voudrais vous dire un mot, avant de passer à ce remède, sur l'éducation des enfants. l'enfant est terriblement blessé. Donc il fait terriblement un retour sur lui-même. Et voilà pourquoi il est important de lui faire pratiquer ces vertus qui peuvent paraître secondaires. Le mensonge chez un enfant est une catastrophe. Il n'y a plus aucune éducation possible chez un enfant qui ment. Parce que l'enfant qui ment se prend pour le critère de tout, on ne peut plus rien pour lui. Un adulte qui ment, je ne vous dis pas que c'est une bonne chose. Enfin, il sait pouvoir se mettre des limites, peut-être. L'enfant qui ment n'a plus de limites. Et l'enfant hypocrite n'a plus de limites. L'enfant flatteur, parce que la flatterie est un excès dans l'amabilité. Vous voyez, on est tellement aimable qu'on flatte. Mais c'est plus de la vertu, ça. L'enfant qui flatte est perdu. Parce qu'on ne peut, on n'a plus accès à son âme, à son cœur, à son intelligence. L'enfant qui conteste encore, bon, on pourra toujours lui répondre. Mais l'enfant qui flatte est perdu. Et il faut être très attentif. Alors je ne vous dis pas, mes bien chers frères, qu'il faut être plus attentif à ses vertus qu'à la vertu de foi. Et non. Mais il faut faire attention qu'il ne suffit pas d'avoir la foi si les enfants n'ont pas ces vertus dont nous parlons tout de suite, ils courent un grand risque d'être perdus, de ne plus pouvoir être éduqués. Comme le libéral court le grand risque d'être irrattrapable, inconvertissable. Et donc il va falloir, mais bien chers frères, le remède, si je vous parle d'éducation, il va falloir l'amour de la croix dans les grandes vertus de religion, dans les grandes vertus de piété, et en même temps dans les vertus de gratitude et jusque dans la vertu d'amitié, d'affabilité, de libéralité. Moi, je me rappellerai toujours, je vous l'ai déjà raconté, nous quêtions à l'époque, l'hiver avait été très rude, pour offrir des pelles de charbon, une pelle, pour mettre du charbon dans le poêle. Donc c'était la quête pour la pelle de charbon. Alors, on quittait l'hiver, parce qu'en été, les gens n'auraient rien donné. Il faisait froid. À l'époque, nous étions en culotte courte. Moi, j'étais en cinquième ou quatrième, j'étais en culotte courte. Je dis à maman, j'ai pas envie d'aller quêter. Et j'avais aucune obligation d'aller quêter, hein. Qui pouvait m'y obliger? Alors maman m'a dit, mon petit garçon, tu n'as pas d'argent à donner aux pauvres, mais tu as du temps. Alors tu vas aller consacrer ton temps pour les pauvres. Je vous garantis qu'elle est sonnée aux portes pour demander de l'argent. On se fait souvent rabrouer, c'est pas facile, mais j'ai retenu la leçon. Alors il faut que l'amour de la croix illumine les grandes vertus et ces petites, enfin j'aime pas le terme de petites vertus, ces vertus délicates. Et c'est vrai non seulement en éducation, mais c'est vrai pour nous. Il y a la lumière de l'Évangile, la lumière de Jésus-Christ, la lumière de l'incarnation, la lumière de la rédemption, la lumière de l'amour de la très sainte Vierge pour son Fils et pour nous, et pas seulement une lumière, mais également une chaleur, doit inspirer notre comportement. C'est cela que nous devons avoir présent à l'esprit, dans la raison, dans le cœur, pour guider tout notre comportement. Je termine sur ce mot, toute cette, parce qu'en réalité, tout ce que je viens de vous dire, c'est ce que les gens appellent la bonne éducation. Justement, bonne éducation est un terme qui veut dire n'importe quoi en fonction des personnes qui l'utilisent. Et les personnes qui utilisent le terme, la plupart du temps, ne sont pas celles qui ont la meilleure éducation. Parce que les personnes qui ont la bonne éducation n'ont pas besoin d'utiliser le terme. Elles exercent la vertu naturellement. Eh bien, c'est cette bonne éducation dont on nous a appris qu'elle était la fine fleur de la charité. Elle est en même temps la fine fleur de la croix. Elle est la fine fleur de l'incarnation. Elle a la fine fleur de notre Seigneur Jésus-Christ, de l'influence de notre Seigneur Jésus-Christ en nous et à travers nous dans ce monde. Et mes bien chers frères, je terminerai là-dessus, que le monde reçoive ou ne reçoive pas les bienfaits de votre vertu, ne vous empêche pas de l'exercer, parce que vous l'exercez pour Dieu. Même si elle ne porte pas de fruits immédiats. Je vous laisse méditer sur l'incarnation de notre Seigneur Jésus-Christ, afin que cela éclaire tout votre comportement, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.